Ouvre à pleine conscience. Ben pour moi, c'est quand j'ai essayé de faire la somme un peu de toutes mes expériences de prise de conscience, il m'est venu une image qui est classique dans le bouddhisme, c'est l'image de la corde, qui doit être la corde d'un instrument, qui doit être ni trop tendue, ni trop détendue pour pouvoir sonner juste. Et pour moi, la prise de conscience, ça doit être quelque chose qui est assez fluide, qui doit être assez équilibré. Ça doit pas être trop contraint et trop bon, ni dans aucune direction. Et donc ça, c'est un peu la manière dont je la vois et dont je veux la mettre en pratique. Et j'essaye de la mettre en pratique. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est de me poser la question de quoi. Être en pleine conscience de quoi? Évidemment, on peut être en pleine conscience de tout ce qui se passe. Mais pour moi, ce qui m'a aidé et ce qui me permet un peu d'équilibrer ma prise de conscience, c'est j'essaie de faire un peu une sorte de résoudre la tension entre prendre conscience de la loi de causalité, de voir que tous les actes ont des conséquences. Mais quand je m'oriente un peu trop vers cette analyse, je prends conscience de beaucoup de choses, de toutes mes origines, de tous les effets de mes actions. Si je m'enfonce trop dans cette voie-là, c'est un peu comme si je voyais que je n'avais plus aucune liberté. Et l'autre côté, le deuxième côté qui équilibre ça, c'est prendre conscience de l'impermanence, qui donne un peu la fraîcheur, la nouveauté, un peu la magie en fait de chaque instant. Et donc dans mes expériences, souvent il y a ces deux côtés. Et je vais essayer de vous donner quelques exemples à partir des trois mots que j'avais choisis pour l'action, pour dire qu'est-ce que je fais pour être pleinement conscient. Donc j'avais choisi trois verbes: dormir, simplifier et sourire. Dormir, ça correspond, on va dire, à l'énergie interne. Il faut que soi-même, on va dire, on soit disponible. Et donc, par exemple, mon cas très pratique, c'est quand on est fatigué, moi je sens tout de suite que je dois mobiliser une énergie folle simplement pour lutter contre ça. Et c'est une énergie qui ne peut pas être disponible à l'extérieur. Et c'est un parfait exemple de la causalité. Il suffit de se coucher tard, le lendemain c'est beaucoup plus dur de se réveiller. Et chaque jour, chaque nuit, c'est une occasion de prendre conscience de la loi de causalité. Et pour pouvoir prendre bien conscience de ça, en fait, depuis quelque temps, j'essaye de me réveiller sans réveil, faire un réveil naturel. C'était bien avec l'arrivée de l'été parce que il faisait le jour de plus en plus tôt, donc la lumière m'aidait à me réveiller. Et mon réveil était beaucoup plus lumineux. J'ouvrais l'œil avec la lumière. Maintenant, c'est commence à être beaucoup trop tôt. Mais le principe est le même, si même en fermant les volets, si on se réveille naturellement, en sachant qu'on s'est couché assez tôt, c'est une joie de se lever. On se lève naturellement. Et le rapport au monde est beaucoup plus... Moi, ça change un peu ma perception de la journée, de mon élan. Donc ça, c'est un peu... une illustration qu'il faut laisser la place, en fait. Il faut, intérieurement, c'est des conditions qu'on doit réunir intérieurement pour être disponible, à être pleinement conscient de ce qui se passe. Et le deuxième mot, donc, c'était simplifier. Simplifier, ça renvoie plutôt aux choses extérieures. On a pas mal de choses autour de nous qui peuvent nous aider à être pleinement conscient, ou au contraire dégrader la conscience. Et donc, ça, c'est plus la vision à long terme où il faut construire un peu son monde de pleine conscience. Par exemple, dans mon appartement, il y a tout plein de choses qui dissipent la concentration et la pleine conscience. Donc, moi, par exemple, c'est un peu dû à mon éducation et toute mon histoire. Il y a des choses qui ont été faciles d'enlever. Par exemple, la télévision, le téléphone portable, pour moi, fait partie de ces choses-là qui me permettent d'être pleinement conscient tout le temps. J'ai eu une panne d'internet chez moi et ça a été une révélation de voir le poids que ça prenait par rapport à ma prise de conscience de simplement être présent chez moi. Internet me disperse complètement. Je n'ai pas coupé ma connexion, mais c'est une réflexion intéressante de se rendre compte que certaines choses peuvent vraiment distraire. Pareil, tout le monde se balade avec des écouteurs, des baladeurs. J'ai fait le choix d'avoir rien d'électronique sur moi, et ça m'a permis en fait cette année de voir, et c'est impressionnant quand j'y pense, j'ai 29 ans, c'est la première fois que je vois un printemps. Le réveil de la nature, que j'ai lu dans beaucoup de livres, célébré dans des poèmes, mais le voir au jour le jour, dans mon trajet au tram, voir un cerisier fleurir, je me suis même arrêté, dans mon chemin, j'ai pris un moment, le premier jour où il a fleuri, j'ai été voir le cerisier que je voyais fleurir de plus en plus. Et c'était toute une magie, toute une attente, et c'est un superbe rappel de l'impermanence. Chaque jour, c'est différent. Et même là, on approche l'été, c'est des fleurs qui apparaissent différentes. Et prendre conscience de tout ça, c'est assez magique, et pour moi, c'est ça, la pleine conscience. Le troisième point, c'était sourire. Sourire, c'est, pour moi, ça représente l'ouverture aux autres. Et l'ouverture aux autres, en fait, c'est pour moi une manière de se découvrir. C'est une porte vers soi-même. Parce que directement, je me suis rendu compte que on n'est pas très honnête avec soi-même. Je tiens un petit journal et je me suis rendu compte que ça fait 6 ans que je me pose les mêmes questions. Ça fait 6 ans que j'oublie que je me pose cette question-là. Et que tout le temps, quand je retombe sur ce problème, j'ai l'impression que c'est la première fois et que cette fois-ci, je vais y arriver. Et j'oublie à chaque fois que j'ai été effaré quand j'ai repris mon journal, mais ça fait 6 ans que, j'utilise les mêmes stratégies de fuite vers la pleine conscience. Et j'oublie. Et donc, une partie de la solution, de ruser un peu avec notre manière de rester non conscient, c'est de s'ouvrir aux autres. Et donc le sourire, c'est le premier contact qu'on peut avoir avec les gens quand on les regarde. Et c'est un peu, moi, une sorte de... C'est vrai qu'au début, ça peut être un peu automatique, c'est comme la corde quand on la tend. À un moment, c'est mécanique, mais après, ça vient tout seul, ça fait de la bonne musique. Et la prise de conscience, même s'il y a des fois des effets un peu mécaniques, un peu forcés, il faut savoir qu'on le fait pour faire une bonne note, parce que si on oublie et qu'on force tout le temps, la corde se casse. Et donc c'est là, il faut se raccrocher à notre intention. Mais il faut quand même faire des efforts pour maintenir cette prise de conscience. Et donc, s'ouvrir aux autres, ça oblige à prendre conscience de l'autre. Et ce qui est impressionnant quand on essaie de prendre conscience de l'autre, c'est que moi, enfin, en tout cas dans mon expérience, c'est que je prends conscience, pas des autres, mais de ma perception des autres. C'est une image, en fait. Je vois quelqu'un, mais c'est pas cette personne que je vois, mais c'est un miroir déformant de moi-même. C'est comme si j'étais aveuglé par moi-même et je projette tout plein de choses. Par exemple, mon père est barbu. J'aime bien tous les barbus. Parce que pour moi, il est une personne importante. Et alors que ça n'a rien à voir avec le fait que cette personne soit ce qu'elle est. Et donc, des fois, j'ai essayé d'utiliser des techniques de transformation de mes projections. Par exemple, au centre, en fait, ce qui est intéressant, c'est que naturellement, j'ai une projection, c'est que si les gens sont au centre, c'est qu'ils sont ils s'intéressent au bouddhisme, donc je peux leur parler plus librement. C'est une projection, c'est pas forcément vrai. Mais c'est une projection qui peut aider. Pareil dans le métro, moi je m'amuse à essayer de voir des princes et des princesses en déguisement, essayer de reconnaître derrière les regards un peu ternes le fait qu'il y a de l'énergie. Ou alors quand il y a une personne qui est vraiment repoussante ou que je trouve vraiment horrible, j'essaye d'inverser. Je me dis, tout ce qu'elle n'a pas physiquement, que je ne vois pas, c'est intérieurement qu'elle l'a. Et j'ai fait quelques fois l'expérience, mais c'était magique, le rapport que j'avais avec cette personne qui physiquement était très repoussante, mais intérieurement, je voyais qu'elle pouvait être complètement magique. Et j'essaye de le faire dans l'autre sens des fois, parce que quand on est trop fasciné par une personne, j'essaye de dire, ok, fais attention, t'emballe pas trop. il peut y avoir... Alors, je le fais pas trop souvent, parce que c'est pas la peine de trop générer des émotions négatives, mais des fois, c'est un bon rappel à l'ordre. Donc, Donc je trouve que c'est très intéressant de prendre conscience que notre ce qu'on voit sur les ouais comment on ressent les autres en fait. Moi quand je ressens les autres, je reçois beaucoup de moi. Et pour aller au-delà de ça, il faut que je leur parle, il faut que j'interagisse avec eux. Et quand j'interagis, en fait, il y a un autre moi qui se rajoute. C'est la manière dont je veux que les gens me voient. Je veux être accepté par les gens que j'apprécie. Et donc quand je rentre en contact avec eux, il y a déjà un autre biais qui s'installe. Ben, c'est la manière dont je veux être perçu. Et donc je m'aperçois, j'ai eu ce grand problème-là quand j'ai décidé. Ben, j'ai pas décidé. J'ai finalement accepté d'être végétarien. Vraiment, parce que ça correspondait vraiment à des valeurs qui commençait à être partie intégrante de moi-même. J'ai beaucoup repoussé ça par peur de ne pas que ma famille ne comprenne pas. En France, l'art du repas, c'est quelque chose. Dans ma famille, c'est vraiment le seul rite familial en fait qu'on fait très souvent. Et le fait du végétarisme, ben j'ai eu du mal à accepter d'imposer ça, on va dire, à ma famille. Ou d'exprimer, c'est pas imposer, c'est même exprimer sa liberté. Et donc, j'ai eu du mal à avoir une vraie communication de par l'image que j'avais de moi-même. Et ça, c'est juste parce que je suis en relation avec les autres. Et donc, je me découvre. Je découvre que j'ai ce besoin-là d'être accepté par les autres. Et un dernier point pour finir sur le sourire. Quand on essaye de trouver des explications à pourquoi on projette ces images-là, à pourquoi cette personne m'évoque telle chose, pour moi, ça me permet d'avoir une piste d'exploration de moi-même. Et par exemple, moi, je sais que j'aime bien me considérer comme différent des autres. Et donc une manière de me différencier des jeunes d'aujourd'hui, c'est de dire je n'aime que la musique classique. Et alors que je sais que, dans certains moments, quand j'écoute d'autres styles de musique, j'aime beaucoup. Mais mes habitudes disent c'est moi qui suis moi. Moi, j'aime la musique classique. Qu'est-ce que tu fais là? Tu peux pas aimer ça. Tu serais comme les autres. Et le rapport, on va dire, à la différence des autres par rapport à moi. On va dire, me fait découvrir une sorte de besoin d'existence. On commence à s'éloigner un peu du sourire, c'est parce qu'il faut arriver à sourire à soi-même et des fois à accepter des drôles de choses sur soi-même. Accepter que oui, on veut être à la fois des drôles de choses parce qu'on peut, on veut des choses différentes. On veut être accepté, mais on veut être reconnu dans sa différence. Et tout ça, en fait, c'est toute une démarche. Enfin, c'est tout un. Chaque personne qu'on rencontre et chaque moment où on porte attention sur soi-même, c'est une manière d'être de plus en plus conscient de tout ça. Et en étant bien conscient que il faut faire attention à maintenir à poser des jalons, hors de soi-même, par exemple. Dans la Sangha, pour moi, c'est ce qui est très important. Quand on reconnecte avec la Sangha, vu qu'on a exprimé et partagé des choses que nous-mêmes, on a même des fois du mal à accepter pour nous-mêmes, les autres deviennent dépositaires un peu de l'idéal qu'on veut vraiment atteindre. Et donc, les autres nous m'aident à prendre conscience de ce que je veux vraiment. Parce que je leur ai confié cet idéal-là et ils me le rappellent. Voilà, je pense que je finirai par juste revenir à ma première idée, parce que ça a l'air d'être très recherché, très conscient, avec beaucoup d'efforts. Il y a de l'effort, mais pour moi, ma plus belle expérience de prise de conscience, elle est complètement sans effort, c'est simplement quand je suis en forêt. La forêt sous la pluie, je ne sais pas pourquoi, mais depuis même avant que je sois bouddhiste, la forêt a toujours été un lieu où je reprenais conscience avec moi-même. Et pas plus tard que la dernière méditation là qu'on a faite sur le metta bhavana, la dernière étape, j'ai pas compris, mais j'étais un grand arbre, qui projetait tout plein de metta. Et Et pour moi, ouais, la pleine conscience, l'image de moi, c'est pour moi, c'est un arbre sous la pluie. Et surtout, moi, en dessous, en train de méditer. Mais... voilà, un peu un petit aperçu de ce que c'est la pleine conscience.